Aujourd'hui, à l'heure de Par ici la musique, nous nous sommes installés dans le salon de Jacky Millet. Jacky Millet, 50 ans de musique, 50 ans de passion, de clarinette et de jazz. Et il a accompagné de nombreuses personnalités. Fabrice Ollery, actuellement, on le sait. Claude Luther, qui a été l'un de ses grands amis. Mais il y en a beaucoup d'autres sur la liste. Vous imaginez Albert Nicolas, Bill Coleman, Smedes Mezro, Benny Waters, Bonnie Tyler. Il y en a beaucoup d'autres. Et puis, lui, Jacky Millet, il reste toujours le même dans la simplicité. Humblement. Et il nous présente ici un nouvel album intitulé Escapade symphonique. C'est un album qu'il a créé avec son ami Fabrice Ullery. Jacky Millet est aujourd'hui l'invité de Par ici la musique. Escapade symphonique, c'est le CD qui vient de sortir avec Jacky Millet, Fabrice Ullery. Et puis l'escapade symphonique annonce les quelques violonistes de Accord Parfait qui font partie de ce CD. Chaque CD est là, vous en avez bientôt une trentaine. Jacky Millet, chaque CD, c'est une surprise quand même pour vous.
Oh, je ne sais pas si c'est une surprise, c'est un petit événement en tous les cas. S'il y a une trentaine de CD, comme vous dites, peut-être un peu moins, je pensais plutôt 25 ou 26, mais si vous divisez ça ou les 50 années de carrière par ça, ça fait un CD tous les deux ans, donc chaque fois c'est quelque chose de très particulier, qui fait plaisir en tous les cas.
Est-ce qu'on a le track avant d'enregistrer une pièce qui sera gravée, j'allais dire pour l'éternité ?
Écoutez, on a le track, oui, c'est-à-dire qu'on se donne beaucoup de peine, on ne prend pas de risques superflus. Mais il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement, avec les progrès de la technique, si quelque chose ne marche pas, eh bien on peut recommencer, on peut le rajouter sur un CD. Il peut se passer beaucoup de choses lors d'un enregistrement.
Ça, c'est l'aspect technique, mais lorsque vous amenez un disque comme celui-ci, qui a quand même une ambiance, il y a quand même quelque chose de particulier dans cette escapade symphonique, il y a aussi le fait de le... j'allais dire presque de le confronter un peu au public.
Oui, je comprends. C'est-à-dire que c'est un disque qui sort de... ce que j'appellerais notre ordinaire, non pas de l'ordinaire. Habituellement, notre jazz est un jazz classique, tandis que là, c'est presque souvent plus jazzy que jazz. Bien que certains morceaux sont absolument jazz, vous allez le voir.
La chanson française, vous l'avez déjà revisitée plusieurs fois avec Fabrice Ullery. Là, vous la revisitez, mais différemment que lors du Francophony Swing.
C'est-à-dire que le Francophony Swing, la plupart des morceaux étaient joués en duo dans le premier, avec un orchestre de jazz dans le second, tandis que là, 5 des 13 morceaux sont joués avec un accompagnement classique, je dirais, fait par des arrangements de Fabrice Ullery et joués par des musiciens classiques professionnels. Donc pour nous, c'est quelque chose d'absolument spécial. Thank you.
Jacques Millet, vous le disiez tout à l'heure, pas loin de 50 ans de carrière. Ce qui a été important dans votre parcours musical, ce sont les amitiés, les musiciens avec qui vous avez eu le bonheur de jouer.
Bien sûr, écoutez, on découvre un tas de personnalités, des gens la plupart du temps extrêmement intéressants et surtout des musiciens au talent extraordinaire qui vous marquent tout au long d'une carrière.
Comment ça se passe, la rencontre de Fabrice Ollery, la première fois que vous avez décidé de travailler ensemble, vous en souvenez?
Écoutez, je ne sais pas si je m'en souviens avec précision, mais je sais que Fabrice Ollery m'avait été recommandé par un autre ami musicien. Je l'ai engagé au festival de jazz de Porrentruy, mais je vous parle de 20 ans en arrière probablement. Là, on a fait connaissance, il est venu jouer un soir à la Huchette, faire le bœuf avec mon groupe, et puis on s'est dit que ça marchait pas trop mal les deux, puis on a décidé de jouer, de faire un essai, et ce premier essai, c'était en Alsace, je ne me rappelle plus du nom de la petite ville dans laquelle on a joué, et ça a été le début d'une série, d'une grosse série finalement, puisqu'on a fait 3 disques et qu'on joue régulièrement ensemble.
Qu'est-ce qui fait justement que la sauce prend et que vous allez travailler sur plusieurs albums avec un musicien, Jacques Millet?
Je crois qu'il faut avoir les mêmes conceptions du jazz l'un et l'autre, la première chose. En plus, il faut bien s'entendre. Il faut avoir aussi, il n'y a pas que le jazz, il y a l'amitié, il y a la vie de tous les jours. Il faut que tout ça marche bien, que, comme vous l'avez dit, que la mayonnaise prenne. Et puis c'est le cas avec Ollery.
Qu'est-ce qu'il a de particulier dans la personnalité qui vous plaît justement Fabrice Ollery, qu'est-ce qu'il a?
Mon Dieu, il a beaucoup de choses. Je dois vous dire que c'est un des personnages les plus intéressants que j'ai rencontrés dans ma vie de musicien. Il est d'une intelligence remarquable. Il connaît tout. Si vous lui parlez de politique suisse, il en connaît plus que moi. Si vous le parlez du métro, il vous expliquera comment le métro a été fait. Si vous le parlez d'automobile, il s'y connaît très bien. Dans tous les domaines, c'est vraiment un homme assez universel et extrêmement attachant. Alors ça, c'est une des premières choses. Et puis, c'est un chic type, voilà. Vous dire autre chose, on a beaucoup d'amitié l'un pour l'autre. Pourtant, il y a une différence d'âge très sensible. Il a l'âge de mes enfants, finalement. Mais comme vous l'avez dit, la sauce a bien pris là. Oui.
Comment est-ce que vous choisissez les titres que vous allez interpréter, d'abord en concert, et les 13 titres qui vont être gravés sur un disque?
Bah écoutez, un disque, c'est toujours la suite logique d'une série de concerts. On reprend sur un disque qui a bien marché dans les quelques mois ou l'année qui a précédé lors des concerts qu'on a donnés. Et la plupart de ces titres ont été choisis comme ça. Je dois vous dire qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont été choisis au tout dernier moment, même pendant les 2 jours d'enregistrement, une idée de Ollery ou une idée de moi aussi. On pourrait jouer ceci, on pourrait jouer ça, on l'essaye. Puis finalement, on le met sur le disque.
C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la balade des gens heureux.
Oui, alors celle-là, ça a été fait vraiment à l'ultime moment et pratiquement sans aucune préparation. Il faut dire que c'est une mélodie qui est bien connue.
Le jazz, c'est l'improvisation, c'est la spontanéité aussi, c'est ce qui est important. Il faut garder la spontanéité pour que le jazz, pour que le morceau soit réussi, que l'interprétation soit réussie.
Il faudrait. Dans la plupart des cas, on aimerait bien le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que finalement, ce sont des morceaux qu'on joue plusieurs fois, quand même, à part cette balade des gens heureux dont on vient de parler, des morceaux qu'on a joués plusieurs fois et sur lesquels on s'habitue à jouer, on trouve certains canevas sur des morceaux et sur lesquels on improvise, sur lesquels on module. Mais ça ne vient pas de la première fois. Et c'est au bout de quelques morceaux que ces phrases-là se découvrent et puis qu'elles restent dans la tête et qu'on les modifie à chaque fois. Mais finalement, il y a une base, véritablement un canevas, une espèce de schéma sur lequel on travaille.
Qu'est-ce que vous avez en tête lorsque vous interprétez des titres qui sont plus anciens, comme « Puisque vous partez en voyage », qui était un titre de Jean Nohain, ou lorsque le soleil a rendez-vous avec la lune de Charles Trenet, ça correspond à une chanson plus ancienne, mais ça correspond aussi à un univers particulier qu'il y avait dans le monde de la chanson et même dans le monde du jazz, parce que là, on est dans les années 40, 50, et puis là, l'univers musical était différent qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que vous avez parfois envie de retrouver lorsque vous interprétez ces titres-là, Jacques Millet?
Écoutez, mais même si pour vous, ça paraît relativement lointain, cette période des chansons jazzy, des chanteurs jazzy, je veux dire, je parle de Beco, vous avez parlé de Jean Nohain, vous avez parlé de Charles Trenet, mais il y avait aussi Brassens, il y a Béart, il y en a d'autres. Alors, pour nous, c'est rajeunir finalement le jazz de jouer ça. Parce que finalement, la musique qu'on joue lorsqu'on est en orchestre Dixieland ou Nouvelle-Orléans, c'est une musique qui date d'un bon siècle en arrière. La musique des départs qui a été reprise. Et maintenant, on essaye, en prenant des chansons françaises, de rajeunir finalement un peu ce répertoire.
Les Trois Cloches de Jean Villargile, c'est quand même une petite histoire, il y a une petite histoire, c'est pas arrivé là-dessus par hasard.
Oh non, là, écoutez, c'est assez rigolo, mais on allait jouer à Montreux avec Ulri, on a pris la route du lac, en passant à Saint-Symphorin, je lui ai dit, tu sais, c'est ici que vivait une personnalité musicale suisse de valeur. Puis, tu n'as pas besoin de me dire, je le connais très bien, c'est Jean Villargile, pour vous prouver que Ulri connaît beaucoup de choses. On a parlé des Trois Cloches, et lorsqu'on essayait à la sono, deux heures après, on a joué les Trois Cloches, puis le soir, on l'a joué en public. Ça a très bien marché, les gens étaient contents d'entendre ça, et on l'a repris depuis lors, une dizaine de fois, je pense, et maintenant sur le disque.
Thank you. C'est violent, on peut en parler un petit peu. Accord parfait, un ensemble symphonique d'une quinzaine de violonistes.
Ce sont des violonistes professionnels qui viennent tous de la même région, de la région de la Bourgogne finalement, entre Beaune, Mâcon, un peu plus près de chez nous, Besançon. Ces musiciens se recrutent par là et c'est cet ensemble, Accord parfait, qui nous accompagne sur ces morceaux.
Ce qui veut dire aussi que le jazz, on peut toujours le redécouvrir, on peut toujours y apporter quelque chose de plus, même avec des morceaux qui finalement font partie de la tradition, même si c'est des morceaux que l'on a souvent joués.
Mais je dois vous dire une chose, c'est que même Claude Luther me racontait ça, il a joué des milliers de fois Royal Garden Blues, qui est un titre les plus connus du répertoire Nouvelle-Orléans, mais jamais deux fois la même chose. Et je crois que c'est ça le jazz, c'est comme ça qu'on arrive à maintenir relativement jeune ces vieilles mélodies, ces vieux morceaux de jazz traditionnel.
On parlait justement de votre ami Claude Luther qui signe Jazz à la Créole et que vous reprenez ici dans ce nouvel album.
Oui, je dois vous dire qu'à chaque fois que nous présentons en public, que nous enregistrons aussi avec Fabrice Ullery, on aime rendre un petit hommage, faire un clin d'œil à cet ami qui a disparu il y a quelques années et qui nous a beaucoup marqué, et l'un et l'autre.
Je parlais des gens qui ont travaillé avec vous. On parle justement de ces amitiés, du fait de faire finalement un bout de voyage, hein, que ce soit avec Claude Luther, aujourd'hui avec Fabrice Ullery. Puis il y a d'autres musiciens que vous croisez, qui vous ont marqué, mais avec qui vous avez peut-être passé un soir, un moment, que vous avez partagé une scène. Alors, puisqu'on parlait de violon tout à l'heure, il y a Stéphane Grappelli. Ça, c'est un souvenir qui doit être assez important aussi.
Ah oui, Grappelli, je crois que c'est le plus grand musicien que j'ai côtoyé, mais avec lequel, il faut bien le dire, je dois bien le dire, je n'ai jamais joué. Mais avec le groupe Dixilen que j'avais à l'époque, je vous parle aussi des années, je pense, 90, par là autour, nous avons fait une tournée d'une dizaine de jours où l'orchestre, mon orchestre jouait en première partie, et Grappelli en trio avec Mark Emler et puis à bassiste, je crois que c'était Jack Sewing à l'époque, jouait en deuxième partie. Et je vous avais raconté une fois ce qui m'est arrivé. Grappelli, à l'entracte, alors que nous avions nous joué et que lui devait entrer en scène, m'a appelé en me demandant « Mon ami, est-ce que tu m'apporterais pas vite un petit verre de whisky ?» Je lui ai porté le verre de whisky. Je lui ai dit « Mais Stéphane, vous aimez comme ça le whisky ?» Il m'a dit « Non, j'aime pas le whisky, mais j'ai tellement le trac. » Et il avait 82 ans, il était numéro 1 à Don Beat, la revue américaine, le classement des musiciens de jazz. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez extraordinaire et ça prouve l'authenticité du musicien et la foi qu'il met quand il joue.
C'est quelqu'un qui marque lorsqu'on le voit une fois en concert comme ça.
En Grappelli, écoutez, c'était extraordinaire. Il y avait tout. Il y avait le swing, il y avait le bon goût, l'improvisation. C'était un petit peu de la musique classique. Au fait, c'était énorme, Grappelli. Il faut écouter ses disques encore maintenant.
Et puis, il y a une composition de Jacques Millet. Vous composez encore aujourd'hui ?
Écoutez, est-ce qu'on peut appeler ça composer ? Oui, de temps en temps. Voilà. Un morceau me passe par la tête et puis je l'écris ou je l'enregistre. Voilà, ça peut se mettre sur un disque une fois ou d'autres fois jamais, enfin voilà, mais ça n'est pas un travail de tous les jours, c'est vraiment une opportunité de temps à autre.
Le plus dur parfois, c'est de donner un titre à une composition.
Oh, pas toujours. Dans le cas particulier, ça a été facile puisque c'était un 4 juin que j'ai noté ça et que je l'ai appelé le 4 de juin. Voilà.
Vous parliez du track de Stéphane Grappelli. On a évoqué l'appréhension avant d'enregistrer un disque. Est-ce que vous avez encore le track ou une appréhension avant de monter sur scène, Jacques Millet?
Ah oui, alors bien sûr. Et même assez fort, je dois vous dire que ce trac se manifeste de différentes manières. Vous pouvez très bien paraître calme et avoir les mains glacées, par exemple, ou être nerveux intérieurement, si on peut dire ça. Mais ce trac, on l'a toujours dans la demi-heure ou l'heure qui précède le concert et pendant le premier morceau. Si ce premier morceau marche normalement, je dirais même s'il n'est pas extraordinaire, ça vous décontracte tout de suite et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on est dans le bain et le trac a disparu.
Est-ce qu'il vous arrive de prendre un petit whisky pour faire passer le trac?
Je viens de vous dire que... Ah non, c'est Grappelli qui disait qu'il n'aimait pas beaucoup le whisky, moi non plus, mais plutôt un fond de verre de rouge, ça va nous aider la même chose.
Qu'est-ce que vous attendez encore aujourd'hui du jazz, Jacques Millet?
Oh, écoutez, qu'est-ce que j'attends du jazz? Mais pour moi, c'est une espèce de... Je crois que c'est une raison de vivre aussi. C'est une distraction, un hobby formidable, presque plus qu'un hobby, puisque je ne fais plus que ça. Je joue une cinquantaine de fois par an en concert. Et puis, je trouve que c'est à chaque fois un challenge, et à l'âge que j'ai, qui est bien respectable maintenant, d'avoir ce challenge, je crois que ça vous maintient, ça vous met une certaine pression et une certaine raison de vivre, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Ça vous maintient, vous disiez.
Voilà, absolument. Mm-hmm. Moi, j'espère.
Merci, Jacques Millet.
Merci à vous.
On rappelle avec bonheur ce disque Escapade symphonique, Jacques Millet, Fabrice Ollery, avec l'ensemble symphonique Accord Parfait. Moi, je pense qu'il est important d'évoquer cet ensemble qui est présent sur 5 titres, mais qui donne quelques beaux accords. Et puis, on aura le bonheur de vous retrouver en concert le 24 février à Del, 25 et 26 février à Courgenay au Point Jazz, et les 2 et 3 mars à Morges et le 4 à Moudon. Merci, ben on voit bien que le jazz vous fait encore parcourir pas mal de kilomètres.
C'est bien.
Combien de kilomètres par année? Vous avez déjà compté?
J'ai jamais calculé, mais passablement quand même. Voilà.